Néo-Québec Chronique.
Alors, ce mercredi 18 octobre, Justin Trudeau a accueilli les dirigeants des États membres de la CARICOM, qui est l'organisation internationale régionale, qui comprend 15 pays et 5 territoires d'outre-mer. Il les a reçus à Ottawa dans le but de permettre un renforcement des efforts du Canada dans les institutions financières mondiales, ça c'est le devoir qui le disait, pour lutter contre le réchauffement climatique qui, on le sait, impacte notamment les îles de la Caraïbe. Ça c'est vraiment ce qu'on a mis en avant. Bah, évidemment, Michel Martineau est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Cyril.
Ce que je viens de dire ne dit pas tout, parce qu'il y avait un autre objectif qui était aussi celui de parler d'Haïti, qui fait de nouveau l'actualité.
Et
bien évidemment, tu t'es penché là-dessus.
Oui, absolument. Oui. Donc l'actualité internationale est dense, voire anxiogène depuis quelques semaines, certes. Mais pour cette chronique, donc, je me suis intéressée à ce qui se déroule en Haïti, qui fait donc de nouveau l'objet de l'actualité internationale. Donc, je vais parler de deux choses. Dans un premier temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a permis, en fait, le 2 octobre dernier, de permettre une intervention multinationale qui sera dirigée par le Kenya, dont l'objectif, c'est de permettre une désescalade des violences que connaît la Première République noire, donc déjà depuis quelques années, et qui s'est malheureusement intensifiée depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Une intervention qui a été notamment demandée par le Premier ministre actuel Ariel Henry, mais qui soulève beaucoup de questionnements. Alors, je dis beaucoup de questionnements pour plusieurs raisons. Lorsque je lis en fait les différents articles, les textes d'opinion traitant du sujet, on souligne déjà les hésitations des membres de la communauté internationale, donc qui ne souhaitent pas reproduire les différents scandales qui ont lieu les années précédentes. Je pense notamment, par exemple, à l'épidémie du choléra importée par les casques bleus népalais suite au tremblement de terre de 2010, où on n'avait jamais recensé de cas depuis plus d'un siècle, et sans compter aussi l'échec des forces internationales à rebâtir le pays, justement après le terrible tremblement de terre donc de 2010, qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes, et donc qui a impacté beaucoup d'autres qui se sont retrouvés sans abri. Également, lorsque je regarde de plus près, le choix du Kenya, en fait, ça me laisse perplexe. Dans un premier temps, et si on revient à ma chronique d'il y a quelques semaines concernant la langue, le Kenya, c'est un pays anglophone.
Ouais.
Tandis qu'en Haïti, les langues officielles, c'est le créole haïtien et le français. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Déjà, comment les forces kenyanes vont pouvoir communiquer correctement avec les forces de l'ordre haïtiennes? Comment ces mêmes forces kenyanes vont pouvoir échanger avec la population pour prendre le pouls de la situation et ainsi adapter leurs décisions dans leur but de permettre une désescalade de la violence dont les gangs sont aux premières loges? Est-ce que la force kenyane composée de policiers et de militaires donc sera en mesure de vaincre les gangs armés et ainsi ramener une certaine sérénité sur le sol haïtien? J'ai encore d'autres questions. Est-ce que la population souhaite véritablement une énième intervention internationale sur son territoire? Est-ce que tout simplement cette mission internationale aura lieu? Car dans le même temps, l'ancien candidat à la présidentielle kenyane, Eruku Aoko, j'espère que je prononce bien, il a déposé en fait une pétition auprès de la haute cour du Kenya pour inconstitutionnalité de l'intervention kenyane.
Tu n'es pas en fait la seule que le choix du Kenya laisse un peu perplexe, mais bon, ça on va voir, comme tu le dis, que la suite, tu as posé des questions, c'est l'avenir qui nous dira. Disons toutefois que à côté de ce problème, il y a d'autres d'autres problèmes auxquels Haïti fait face, il y a dont notamment cet enjeu actuel là, de à savoir comment régler le conflit qui l'oppose à la République dominicaine. À propos de la construction juste d'un canal, peut-être que quand moi je le dis depuis Montréal là, ça peut faire bizarre, mais c'est quoi cette histoire?
Alors, donc pendant que je prête attention à ce qui se passe à l'échelle internationale, donc je peine à regarder ce qui se passe au niveau de l'actualité régionale haïtienne. Et c'est en fait, c'est sur Twitter et Instagram que je découvre, en fait, à mon plus grand étonnement, qu'il y a de nouvelles tensions géopolitiques. Je dis bien nouvelles, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, donc qui opposent Haïti à la République dominicaine. Donc, comme tu l'as dit, Cyril, en fait, il y a Haïti qui a décidé de construire un canal à la frontière haïtiano-dominicaine, donc qui se trouve au nord donc, de l'île, précisément à la rivière d'Arabon, donc une rivière qui est malheureusement connue pour le massacre de 1937, Je reviendrai sur cette histoire dans quelques instants. Et donc, la construction de ce canal permettrait à Haïti d'alimenter les agriculteurs de la région et ainsi augmenter leur production. Cependant, vous avez le président de la République dominicaine, lui qui estime que la construction de ce canal se fait dans des conditions vraiment qui ne sont pas du tout optimum. Mm-hmm. Et il parle même d'ailleurs de provocation. Et Luis Abinader, donc le président donc, de la République dominicaine, qui d'ailleurs se présente à sa propre succession, donc pour 2024, il a construit, il y a de ça quelque temps, un mur pour empêcher l'immigration clandestine.
Un mur comme l'autre, on construit l'autre, penser à un mur aux États-Unis.
Donc, voilà, donc ça me fait penser justement à un fameux président américain qui mm-hmm. a eu la même idée il y a de ça quelque temps. Mm-hmm. Donc toujours est-il en fait que le canal continue d'être construit, notamment au niveau haïtien avec l'aide de la population. Et ce nouvel événement vient pour moi s'ajouter à une liste de tensions qui existent entre les deux pays depuis déjà de nombreuses décennies, même depuis leur création, en fait.
Alors, c'est vrai, depuis la colonisation, ou on va dire quoi, l'occupation, l'abolition de l'esclavage et la naissance d'Haïti, la République et la République dominicaine, il y a toujours eu des tensions diplomatiques, xénophobes et ethno-raciales mm-hmm. qui empoisonnent régulièrement les relations entre les deux pays.
Absolument. Ouais. Et donc, je vais revenir sur cette fameuse rivière d'Arabonne, donc mm-hmm. j'y parlais tantôt. Pour vous donner un peu le contexte, le 2 octobre 1937, vous avez le dictateur Trujillo, donc de la République dominicaine, qui décide de fermer les frontières pour empêcher les Haïtiens de traverser la rivière d'Arabonne. Et dans cette rivière, il y a un massacre, je pourrais même dire un génocide, qui aura lieu et qui va tuer plus de 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Leur seul tort, en fait, c'est de ne pas avoir su prononcer le mot péril avec l'accent espagnol. Donc, si nos auditeurs veulent en savoir plus, j'ai écrit un article, il y a de ça 3 ans pour mon blog identitécaraïbe.org. Mais au-delà du fait donc, que la langue, à nouveau, soit un élément explicatif dans ce massacre, il faut comprendre que Trujillo il cherchait à créer une nation purement dominicaine. Et pour ce faire, donc, la race va prendre une place très importante dans la construction de la nation. Et toute personne n'ayant pas une peau claire ou blanche est perçue comme un étranger. Mmh. Et donc le massacre de 1937 reste à mes yeux un des pires génocides du XXIe siècle qui mérite une meilleure en fait, couverture médiatique pour comprendre la situation actuelle.
En fait, je t'entends et tu rappelles ça, c'est quand même quelque chose qui fait un peu froid dans le dos. Mais si on regarde quand même l'actualité de ces dernières années, les tensions raciales, là, elles perdurent toujours, ça fait quand même 86 ans.
Mmh. Ouais. C'est ça. Quand j'ai parlé de la construction du mur, donc il y a déjà ce point-là.
Ouais.
Il faut quand même revenir, par exemple, à 2013, où le gouvernement dominicain avait décidé, donc avec l'aide de la Cour constitutionnelle, de retirer la nationalité à toute personne originaire d'Haïti qui était née depuis 1929. Donc, c'est votre grand-père, grand-mère, oncle, tante, père, mère, donc des générations de Dominicains d'origine haïtienne qui se retrouvent du jour au lendemain sans nationalité, sans terre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les apatrides, être apatride. Et donc des familles entières se retrouvent contraintes de retourner en Haïti, un pays qu'ils n'ont jamais connu, où certains ne parlent pas un seul mot de créole haïtien ou de français. Alors que paradoxalement, la main-d'œuvre haïtienne sur le sol dominicain ne cesse de croître et représente même une valeur sûre pour le bon fonctionnement de son économie, notamment dans le marché de la production de la canne à sucre ou encore de la banane.
Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible que tu
oui,
racontes.
Oui, absolument. Mais pour moi, en fait, parler d'Haïti, c'est prendre une grande inspiration, dans le sens où il faut s'attendre à se retrouver face à un pays avec une histoire avec un grand H. Et hormis le fait qu'Haïti restera un modèle par excellence de soulèvement des esclaves face à la colonisation et l'esclavage dans le but ultime de trouver son humanité, sa liberté, elle est marquée quand même par de grandes blessures. Lorsque j'entends par exemple qu'Haïti c'est un pays maudit, qu'il y a toujours des déstabilisations politiques, que les cyclones ou inondations affaiblissent le pays un peu plus, ou encore que le pays soit versé dans le mal avec une pratique abusive du vaudou, je suis un peu agacée. Rien de tout ce qui s'est produit n'est arrivé par hasard. Mmh. Il ne faut pas oublier que la dette colossale qu'elle a dû payer à la France pour qu'on ait son indépendance. Il ne faut pas oublier l'occupation américaine de 1915 jusqu'à 1934 pour soi-disant protéger les intérêts économiques américains, sans compter les dictatures Duvalier, Père et Fils, et bien entendu, la liste continue. La situation actuelle, en fait, c'est le résultat de nombreuses décisions politiques locales et internationales dont la population reste en fait la première victime. Bien sûr, je ne peux pas parler en fait au nom de la communauté haïtienne parce que je ne le suis pas, mais je reste quand même admirative devant leur résilience, leur ténacité. Et malgré en fait les coups à répétition, la population haïtienne continue d'être égale à elle-même, fière de ses racines, de son histoire, et où les intellectuels aussi, de par le monde entier, y compris ici au Québec, font vibrer sa culture. L'union fait la force. La devise de la paix des Antilles a tout son sens. Tête collée, comme on le dit si bien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel.
Néo-Québec, chronique.